On se demande souvent quel livre emmener avec soi en vacances. Alors, on a une bonne idée. C'est un livre de Richard Darmon, paru aux éditions Lishma, qui s'appelle « Chroniques d'Israël ». C'est des chroniques qui se situent entre 1985 et maintenant, 2024. Et Richard Darmon est en ligne avec nous. Bonsoir, Richard.
Bonsoir et shalom.
Bonsoir, shalom ouvracha. Alors, c'est vrai que, d'abord déjà, il faut préciser que ce livre est la suite d'un premier ouvrage qui était paru auparavant et qui s'appelait toujours aux éditions Lishma, D'un exil à l'autre, dans lequel vous racontiez un peu votre construction, la construction de votre identité, votre construction personnelle par le fait que vous êtes, vous, juif d'origine algérienne, vécu en France, dans un milieu plutôt Libé, Libération, le journal, où vous étiez correspondant, journaliste, journal Le Monde, etc., pour arriver ensuite à Jérusalem, où vous êtes devenu plus pratiquant et vous avez rejoint Israël et avec tout ce que cela comporte. Donc c'est un peu un parcours sur trois continents, comme vous l'expliquez très bien. Et là, voilà, c'est un peu la suite, c'est vos chroniques qui suivent ce premier ouvrage. Je voudrais préciser que c'est un livre qui se lit de manière très agréable. C'est des tableaux, 15 tableaux, d'un retour au pays ancien ou nouveau, dites-vous. Et voilà, déjà pour pouvoir réussir vos tableaux, ce que vous avez fait, c'est déjà de visiter Israël dans tous les coins. Alors, il y a plein de choses. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous avez envie de raconter comme ça votre parcours en Israël? Parce que tout simplement, vous aimez écrire, parce qu'il y a une urgence, il y a un besoin de montrer cette vie qui, bien sûr, est bien remplie.
Eh bien, écoutez, c'est un peu tout à la fois. Je crois que c'était Albert Camus qui avait dit « Il est un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre ». Et donc, à vrai dire, ce sont pas vraiment des mémoires parce que je me sens pas ni de d'outre ou de prétombe, si j'ose dire. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un parcours. Je crois qu'on a on a la chance et on se rend pas souvent très bien compte. Ceux qui ont connu ces trois continents, l'Afrique du Nord, l'Europe ensuite et la France, et puis on fait le saut vers Israël et Jérusalem ou tout Israël qui est en fait inclus dans Jérusalem, on ne réalise pas la chance inouïe qu'on a en une génération, c'est-à-dire quoi, en 30, quelques décennies, 30, 40 ans, d'avoir pu parcourir tous ces espaces. Et je crois que, de toute manière, quelqu'un qui reste dans son village, il peut aussi parcourir beaucoup d'espace. Ce n'est pas la question de la géographie, mais c'est justement quand l'histoire, l'histoire rencontre la géographie, il y a un parcours, effectivement, il y a des choses qu'on a envie de raconter. Et puis, il y a une mutation d'identité qui s'est opérée pendant toutes ces décennies. Bon, le premier tome, là, j'ai appelé ça, d'ailleurs, j'ai mis ça sous l'égide d'un surtitre qui s'appelle « Épopée d'une délivrance ». Parce que, finalement, ce parcours Alger, Paris, Jérusalem, c'est un parcours qui a un sens, qui est porteur d'un espoir, et qui est, si vous voulez, qui est une... par le parcours finalement commun à pas mal de gens de notre génération, même si tous n'ont pas fait le saut de Paris vers Jérusalem ou de la France vers Israël. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai voulu raconter. Et puis aussi, comment dirais-je, j'ai fait ça sous forme de tableau. Le premier tome, lui, d'un exil à l'autre, comme d'ailleurs son iconographie l'indique, c'est justement de l'exil algérien à l'exil français. J'ai grandi, j'arrivais d'Algérie à l'âge de 5 ans, j'ai grandi, j'étais au lycée de banlieue dans le 94, un lycée connu qui s'appelait Marcelin Berthelot, et puis après il y a eu les événements de 68, etc. Et donc, si vous voulez, j'ai fait le parcours français typique du pied noir, assez assimilé. J'étais pas dans une famille, comme vous le releviez, qui était très insérée dans la tradition juive. Et puis, les années passant, avec les déconvenues de l'engagement à l'extrême gauche et puis les impasses de cette espèce d'homme nouveau que on avait cru pouvoir ou devoir inventer après 68, dans le siège de mai 68, en fait j'ai petit à petit opéré un long retour, non pas religieux, j'aime pas le terme, mais un retour identitaire, et donc un retour à au judaïsme, mais conçu non pas comme une religion, mais comme une certaine manière d'être homme. Et donc, si
Attendez, parce que là, on touche à plein de trucs, j'ai plein de questions à vous poser. Par exemple, vous dites, à un moment, vous dites, il y a un paradoxe quand même pour les juifs algériens, c'est qu'ils sont français jusqu'au bout des ongles, mais quand ils arrivent en Israël, on voit qu'ils sont plus sionistes que la majorité des Israéliens, mais on va en parler dans une minute. Par contre, dans cette recherche, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est, vous avez un copain qui vous prête son appart, parce qu'il a fait une alia Boeing, comme on dit, c'est ceux, vous savez, qui partent 3 jours là-bas et qui vivent 3 jours ici, et vous avez découvert à Tel Aviv, d'abord les promenades du vendredi soir, ça vraiment, c'est vrai que c'est merveilleux, parce que bon, les gens jouent de la musique s'ils ont envie, mais nous on est, c'est vraiment, c'est une super expérience, mais bon, qui est facile à décrire. Par contre, ce que je savais pas, c'est qu'à Tel Aviv, il y a des yeshivot laïques, ça peut être dans des apparts, ça peut être dans des centres culturels, on peut mettre la kippa ou pas, et en fait c'est des écoles talmudiques laïques à Tel Aviv. Racontez-nous cette expérience, parce que
Oui, c'est un phénomène qui est apparu, bon, c'est à Tel Aviv, mais c'est dans presque toutes les grandes villes d'Israël. C'est un phénomène qui existe depuis presque 2 décennies, qui a pris beaucoup d'ampleur. Et en fait, ce sont des bêtes à midrash, en fait, on peut dire, des endroits où des gens portant kippa et d'autres portant pas du tout kippa, mais se retrouvent pour étudier, soit sous l'égide d'un piestage qui a quelque chose, qui a un message et un décryptage à apporter, soit ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas forcément une kippa. Et là, il y a si vous voulez, les contours redessinés, puisque c'est un phénomène qui était très, très petit, minoritaire, il y a une vingtaine d'années, et qui a pris une énorme ampleur. C'est les contours redessinés d'un nouvel engagement identitaire juif en Israël, qui n'est pas du tout conventionnel, qui ne passe pas par ce qu'on appelle Hazara Betshuva en France, en Europe.
Mais oui, parce qu'on nous dit toujours que la société israélienne, elle est hyper fracturée, elle est... Et avec ce genre d'exemple-là, on voit que pas forcément, quoi. C'est toujours comme d'habitude, quand on regarde de loin, qu'on voit...
C'est vrai, mais ce qui est intéressant de noter, c'est quand le phénomène a été connu, bon, il existait déjà depuis quelques années, mais puis après l'assassinat de Rabin, en 1996, 95, pardon, et dans les mois qui ont suivi, le journal Yedidot Aharonot a demandé à un de ses journalistes d'aller faire une enquête, parce qu'il avait entendu ce nom de Yeshiva Laïque, et ça fait bizarre, ça sonne contradictoire, oui. Bien sûr. Alors, il a envoyé son journaliste faire juste le portrait d'une des yeshivotes qui existait dans un quartier de Tel Aviv. Et quand ce journaliste, assez jeune au demeurant, il était reçu, il était stupéfait d'entendre par ceux qui l'accueillaient, qu'il y en avait plusieurs de ce yeshivotes, il y en avait à Haïfa, il y en avait un peu aux quatre coins du pays. Déjà, il y a donc presque 30 ans, un peu moins de 30 ans. Et donc, quand il est revenu à sa rédaction, après avoir passé 2 demi-journées là-bas, il en a parlé à ses supérieurs, au rédacteur en chef, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une enquête à faire beaucoup plus fondamentale, à savoir qu'est-ce qui était en train de se passer dans le pays, derrière les petites incantations de la guerre entre religieux et non-religieux, entre laïcs et les autres, entre la droite et la gauche. En fait, le pays réel d'Israël, c'était aussi, je ne dis que ça, mais c'était aussi cette soif de ressourcement.
Il se trouve que moi, je connais bien ces gens-là. Par exemple, je sais qu'à la Chomer HaTzair, on étudie les textes d'histoire juive, on étudie la pensée juive, etc., mais on ne deviendra jamais religieux. C'est parce qu'on on aime ça, mais on n'est pas religieux. Par contre, dans les clés que vous donnez dans votre livre, vous parlez d'une enquête qui a été faite par l'Institut Gutmann qui est juste sidérante. D'ailleurs, même vous-même, vous dites c'est sidérant. Par exemple, plus de 90% des Israéliens font le Seder de Pessah. Bon, c'est déjà beaucoup. Ouais. Mais il y a un mouvement de retour à la religion que peut-être vous n'appellerez pas la religion, de retour à ses racines juives, qui touche tout le monde.
Écoutez, Oui, c'est cette enquête Gutmann, je l'ai commencé à la découvrir parce que c'est pas une enquête une fois, c'est une enquête qui a été faite toutes les 7-8 ans sur les 3 dernières décennies sur des échantillons considérables de 2500 Israéliens. C'est pas un sondage, c'est une enquête approfondie où on a reposé les mêmes questions tous les 7 ans et où si vous voulez, bon, il y a donc 4 enquêtes, ça fait presque 3 décennies que Gutmann a commencé à faire ce parcours incroyable, et on a reposé les questions aux gens sur bon, à la fois leur pratique des mitzvot et sur comment ils se définissaient, traditionnalistes, semi-religieux, comment, sionistes, etc., toutes les catégories qu'on connaît plus ou moins, qui sont d'ailleurs de contours pas toujours faciles, hein, parce qu'il y a aussi des orthodoxes, mais aussi des orthodoxes modernes, etc. Et donc cette enquête, elle a tracé un sillon que j'ai essayé de suivre. Bon, elle publiait donc tous les 6-7 ans une énorme série de folios avec des graphiques, etc. Et on s'aperçoit que la photo, si je puis dire, prise par cette enquête sur le pays réel, le pays en profondeur d'Israël, c'est pas du tout la photo qui est donnée dans les journaux, qui est donnée au jour le jour de...
On s'en doutait un peu, hein, avec le 7 octobre. On a dit, ouais, les gens se... Mais où sont les Israéliens? Les gens se déchirent. C'était avant le 7 octobre, donc vous en parlez évidemment. Mais regardez, je vais donner 2-3 chiffres pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. 94% des juifs israéliens font la Brit Mila, la circoncision à leurs enfants. 91% font la bar mitzvah pour leurs fils et 63% la font aussi pour les filles. 92% font la shiva quand l'un de leurs parents est mort. 90% font le kaddish. 86% veulent un enterrement juif. Enfin, les chiffres sont très très élevés. C'est pas seulement 60 ou 50. Si, on est à 50 ou 60 quand on parle du kiddush, ce qui est déjà beaucoup. Les gens, ils font le kiddush le vendredi soir dans la société israélienne. 90% des Israéliens font le seder de Pessah. Et c'est vrai que, si vous voulez, avec les querelles qui ont précédé le 7 octobre et qui reprennent aujourd'hui, hein, parce qu'il ne faut pas se baratiner, on se dit un peu, on entend cette fracture, ces deux pays, mais les Israéliens, finalement, sont peut-être un peu spectateurs de ça.
Oui, ils ne sont pas comme ça. De leur propre itinéraire, et donc on est parti des yeshivot laïques, mais ça touche aussi, vous savez, par exemple, phénomène hallucinant, c'est le nombre de synagogues qui ont été ouvertes ces dernières décennies dans les kibbutz les plus
gauches.
Oui, pas seulement, mais dans des dizaines, des plusieurs dizaines de kibbutz qui étaient le dos tourné à toute tradition, etc. Eh bien, soit on a réouvert parce qu'il y avait une petite salle qui était en désuétude, soit on a ouvert des synagogues parce que les gens des kibbutzim, ils veulent faire aussi les ragim, ils veulent faire le kippour, Rosh Hashanah, etc. C'est un phénomène qui touche toutes les strates. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un retour dans les catégories connues, religieuses, j'allais dire, de diaspora, telles qu'on les connaît en France, le retour avec un rave et avec des mitzvot qu'on fait petit à petit. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un mode complètement, typiquement israélien. D'ailleurs, Amos Oz lui-même, que je cite, était un militant d'extrême gauche, pacifiste, un grand écrivain. Amos Oz avait parlé dans ses derniers ouvrages d'un mode de vie, un nouveau mode de vie initié par les Israéliens, c'est un mode de vie méditerranéen. Et j'aime beaucoup cette définition parce que je donnerai un exemple justement qui vous fera comprendre ce que voulait faire dire Amos Oz. C'est pas des choses théoriques. Comme depuis 10-15 ans, on assiste sous l'effet de l'aléa occidentale, aussi bien américaine qu'européenne et surtout française, à Tel Aviv, on assiste à un renouveau juif, à une réouverture des synagogues qui étaient en désuétude, qui étaient fermées, où il n'y avait que des petits vieux. Il y a des synagogues où le Shabbat, il y a 500-600 personnes.
Et les Français, ils font beaucoup ça. Hein. Les Français, ils ouvrent beaucoup de à Tel Aviv.
Pourquoi méditerranéen? C'est parce que dans ces synagogues, faut pas croire que tout le monde y est à 8h du matin pour faire 3 heures d'office, etc., comme dans comme célébrent Sépharade, dont je fais partie d'ailleurs. Mais c'est que il y a des gens qui vont à la plage avec leurs gosses de 8h à 10h et qui arrivent à la synagogue en tongs, en short, avec du sable sur les pieds, et qui restent la dernière demi-heure parce qu'ils aiment bien l'atmosphère, ils aiment bien le kiddush, ils se sentent appartenir à cette Kehila, et pour eux, d'être à la plage, c'est pas...
C'est pas antinomique.
Voilà.
On et peut donc, faire les deux.
C'est ce mode de vie, ce plaisir de vivre, cette expérience méditerranéenne, j'allais dire, du judaïsme, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui et qui n'est pas du tout dans les catégories de la religion et du stress lituanien ou chassidique, peu importe. On est sur une autre planète, mais ça n'empêche que, justement, dans ces yeshivot, le niveau de l'étude, le niveau des échanges est parfois très, très poussé. Et c'est pas parce que c'est pas conventionnel que c'est pas sérieux.
Richard Darmon, avec votre permission, on se retrouve dans une minute.
Avec plaisir.
Et nous sommes toujours en ligne à Jérusalem avec Richard Darmon, qui est journaliste, écrivain, et qui nous parle de son dernier livre qui s'appelle « Chronique d'Israël, 15 tableaux d'un retour au pays ancien-nouveau ». Et il parle des années 1985-2024. Et on était en train de voir comment la société israélienne, d'ailleurs c'est un plaisir de vous entendre, parce que vous nous dites « Non mais attends, les gens ils sont beaucoup plus unis que ce qu'on croit ». Ils sont beaucoup plus attachés à leur pays que ce qu'on veut nous faire croire en les voyant s'entre-déchirer, un accablant, l'autre en refusant de faire l'armée. Et d'ailleurs, justement, on en vient à l'armée. Alors d'abord, déjà, vous vous êtes fait le petit plaisir de nous raconter qu'un jour, vous étiez tous les trois, vous, votre fils, votre fille en uniforme, pour vous qui avez été né en Algérie, immigrant, etc. Ça vous a fait... ça vous a fait quelque chose de particulier et vous nous le racontez, mais au-delà de cette expérience personnelle, il se trouve que vous avez un chapitre qui s'appelle « Pourquoi l'armée est la plus morale du monde ?» et on raconte dans ce chapitre pourquoi l'armée unit autant les gens. D'ailleurs, j'ai été surpris d'apprendre en vous lisant que c'est surtout les milouim, c'est les périodes de réserve qui unissent le peuple. J'avais toujours cru, moi, que ce qui avait constitué la nation israélienne, c'est les 3 ans d'armée, parce que dès 18 ans, il n'y a rien à faire. Tu n'es pas tout seul dans ton quartier à Petah Tikva ou à Tel Aviv. Puis 3 ans, c'est long. Et là, ce sur quoi j'aimerais vous entendre, c'est qu'on le voit encore une fois depuis les massacres du 7 octobre, quand tout le monde le dit, hein, moi j'entends des témoignages, je ne connais pas, je n'ai pas vécu. Mais ce que tout le monde dit, c'est que quand les soldats sont ensemble, il n'y a pas de discussion. Pas parce que on n'a pas le temps, mais parce qu'ils n'en ont pas envie. Ils sont, quel que soit, dans chaque unité, vous avez tous les profils possibles et imaginables, il n'y a pas de discussion entre Israéliens.
Absolument. Tout le monde, dans surtout cette période qu'on a traversée depuis 10 mois, avec le surgissement, c'est-à-dire qu'on est passé en quelques heures, enfin quelques jours, de l'effroi et du chagrin à une sorte de surgissement. Et il y a eu un inversement de cette division qui existait dans les rues, qui était d'ailleurs le fait d'une minorité très active de part et d'autre, mais enfin qui était quand même une grande blessure, une grande déchirure sociale en Israël. On est passé à quelque chose d'incroyable, un switch qui fait que épaule contre épaule, sur le champ de bataille, dans les unités de réservistes, et je vous signale que Israël, en l'espace de 2 semaines, même pas, en 10 jours, a réussi à mobiliser le chiffre incroyable de plus de 300 000 réservistes sur une population de un peu moins de 10 millions d'habitants. Mais
on s'en souvient, les gens étaient en vacances en Australie, ils cherchaient un avion pour pouvoir rentrer.
Absolument. Il y en a même qui ont fait le voyage dans le cockpit des avions parce qu'il n'y avait plus de place dans le couloir et ils voulaient absolument, surtout des jeunes qui étaient donc en train de
Thaïlande
et qui voulaient rentrer pour combattre. Et donc on s'en dans ces unités de Milouimnik, de gens qui sont les Milouim, on se retrouve sur le front pour une guerre aussi juste que celle-là. Si vous voulez, non seulement il n'y a pas le temps, mais il n'y a aucune discussion idéologique, il n'y a aucune... Tout le monde est le frère de tout le monde et ça crée des liens. C'est pas seulement le danger et le risque de mort. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait une expérience un peu extrême où les critères changent. Mais je crois que dans la durée, d'ailleurs, il y a un analyste de la société israélienne assez connu qui a sorti un livre en hébreu uniquement sur ce sujet de la réunification du peuple israélien d'Israël depuis le 7 octobre, c'est le sociologue, Mika Goodman, qui a sorti un livre qui s'appelle en hébreu le 8e jour, puisque en fait le 7e jour c'est le 7e jour de Simchat Torah, et puis lui il parle du jour d'après, le 8e jour, et il explique que le 8e jour c'est justement le fait que toute la société d'Israël, elle va se redéfinir, il va y avoir un aggiornamento, un changement fondamental dans la société d'Israël par l'expérience des milouimniks, de ce tiers de million, de 350 000 soldats qui ont servi des mois durant. Vous savez, il y a des gens, ça fait 10 mois presque la guerre a commencé, il y a des gens qui sont rentrés qu'une ou deux fois chez eux, il y en a ceux qui sont à certains postes, etc. Ils ont fait des périodes extrêmement longues de plusieurs mois, avec des relax de 15 jours de temps à autre, mais ils ont passé les 9/10 de leur temps sous les drapeaux à défendre le pays et dans des tas d'unités. Et ça a créé, si vous voulez, une redéfinition des priorités du pays qui est essentielle. Le livre, pour le livre de Micha Goodman, il faudrait qu'on traduise en français, c'est un livre de sociologue mais très très approfondi, où il explique que justement l'exemplarité de la solidarité qui unit ceux qui combattent dans le Sahel depuis 10 mois ensemble, ça crée, si vous voulez, un étalon pour la redéfinition de toute la société israélienne. Et on en a vu des preuves. Je signale d'ailleurs, il y a eu au mois de début mars, il y a eu un petit incident semi-médiatico-politique. Le général Goldfuss, qui commandait Dan Goldfuss, qui était général de toutes les unités commando dans Gaza, donc qui était un poste clé, faisait une conférence de presse pour classique devant les correspondants militaires israéliens d'ailleurs, pour faire le point sur où on en était de la guerre à Gaza. Et à la fin de son briefing technique, il change de registre et il s'adresse aux dirigeants du pays, de toutes tendances confondues, et pas seulement aux dirigeants politiques, mais aux dirigeants, toute la manigoute, tout le leadership, en disant nous, ce qu'on a fait et ce qu'on continuera à faire, il ne faut pas que ce soit gâché par vos querelles, etc. Il commence à faire une sorte de mise au point civique en disant cet élan qui a relancé, qui a réuni les Israéliens, il est impossible
texte
de le gâcher.
Pas prévu. On se demande ce qui lui a pris d'ailleurs, parce que texte pas prévu, normalement lui comme il est porte-parole, comme il est officier supérieur de l'armée, il donne son texte. C'est pas dans le texte. Tout d'un coup, il dit, et je me souviens très bien de la phrase, il leur dit, j'espère que vous allez être à notre hauteur. J'espère que vous allez être à la hauteur de ce qu'on est nous, et qu'on n'est pas mort pour rien.
Et je dois vous dire, pour finir, parce que ça c'est un exemple que j'ai pas développé assez, parce que bon, on peut pas parler de tout, mais c'est que dans la classe politique, toutes tendances confondues, et y compris le Likoud, le parti de pouvoir aujourd'hui, tout le monde a été horrifié de ça. On a dit, mais qu'est-ce qu'il a, il veut faire un putsch. En fait, on a très mal pris sa sortie alors qu'elle était unifiante. Ils ont pris comme un espèce de coup de poing sur la table des militaires, alors que c'était pas ça, c'était au contraire un appel civique. Et figurez-vous que il y a eu d'ailleurs de manière très intéressante, on était début mars. Alors pour d'autres raisons, ensuite dans les semaines qui ont suivi, à cause des pressions américaines, à cause des armes, certaines armes qui n'arrivaient pas, à cause des divisions politiques et de toutes sortes de critères, on a assisté pendant 2 mois, de février à mai, à une mise en veilleuse de la guerre à Gaza. Mais l'impulsion, elle a été donnée par cette sortie de Goldfuss, parce que d'après moi, mais ça c'est une thèse un peu audacieuse, il faudrait pouvoir le prouver et je vais peut-être entreprendre une recherche pour ça. D'après moi, la sortie de Goldfuss, elle a donné des sueurs froides à tous les politiciens israéliens, en se disant que le peuple d'Israël qui était en armes, 300 000, 320 000 réservistes en armes, c'est pas n'importe quoi, c'était devenu peut-être dangereux pour les élites politiques.
Déjà, s'ils font une liste, ils vont gagner. Alors, pour clore notre conversation, Richard Darmon, je vais céder la parole à un philosophe bien connu, qui a dit, vous le citez, vous, dans vos tableaux, vous dites, alors donc ce philosophe dit, en Sorbonne, il est clair comme le jour que les prédictions du Messie, quand on parle du Messie, se rapportent à Jésus-Christ. À la Sorbonne, quand on parle du Messie, on parle de Jésus-Christ. Chez les rabbins d'Amsterdam, il est tout aussi clair qu'elles n'en ont pas le moindre rapport. Et ajoute ce philosophe, je ne croirais jamais avoir bien entendu les raisons des juifs qu'il n'ait un État libre, des écoles, des universités, où ils puissent parler et disputer sans risque, alors seulement nous pourrons savoir ce qu'ils ont à nous dire. Eh bien, ce philosophe qui est quand même très, très sioniste à son époque, c'est Jean-Jacques Rousseau. Alors, Richard Darmon, voilà, écoutez, vous êtes venu avec un cadeau. On va faire un petit jeu, je ne sais pas, je prends au hasard. Le troisième appel, parce qu'il faut un hasard, on ne va pas faire une question. Le troisième appel recevra les chroniques d'Israël en cadeau pour partir en vacances avec. Je ne pose pas de questions, juste là maintenant, les gens appellent et le troisième aura le plaisir d'avoir les chroniques d'Israël de Richard Darmon aux éditions Lishma. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Je rappelle également le livre précédent qui s'appelait « D'un exil à l'autre », toujours aux éditions Lishma. Et je vous remercie d'avoir été notre invité en vous souhaitant une excellente soirée à Jérusalem. Bonsoir Richard.
À bientôt, Shalom.
Voilà, cette session d'information est terminée. On se retrouve à 19h pour un journal complet.